Voilà, bonjour. On a chanté, tu sais, nos craintes. Et je ne sais pas, vous avez peur. Moi, j'ai un peu peur, là, en fait, maintenant, ce matin. Quand ça s'est arrêté, j'entendais mon cœur faire boum, boum, boum. Je ne sais pas si ça vous fait ça, des fois. Hein. On a des craintes, hein. Et voilà, c'est aussi une crainte pour moi d'être devant vous. C'est pas toujours le... Voilà, on dit le trac, parfois. On dit le... Voilà, c'est tout un... On est des humains, hein. On est des humains. Notre cœur bat, notre cœur bat parfois plus fort. Et c'est comment ce chant qui dit mon boum dans le cœur. Il n'y a pas un chant qui actuellement les. Padam, badam dans ma poitrine. Hein. Vous connaissez ce chant là qui dit le... C'est tout un chant qui a été fait là-dessus. Hein. Donc c'est normal qu'on a des fois le cœur qui bat un peu plus fort. Voilà, alors, ce matin, on va. Voilà, message, puis un témoignage qui sera aussi une forme d'illustration aussi de ce qu'on va entendre durant le message. C'est un culte enseignement-partage, hein, c'est un peu des nouveaux noms peut-être aussi qu'on a donné au culte. Donc enseignement-partage, le partage ce matin ne sera pas des groupes, des petits groupes de partage, mais ça sera un témoignage et puis on va aussi ensuite passer un temps de prière. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît, Daniel ? Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce verset bien connu dans Romains 15, verset 7, c'est le verset qui a inspiré mon message ce matin. C'est aussi sur ce verset qu'on va méditer ce matin. Avant d'aller dans la méditation proprement dit, quelques mots du... De où ça se trouve, hein, c'est dans le livre des Romains, donc c'est Paul qui écrit cette épître. Il ne l'a pas écrit lui-même, il l'a dicté à un certain Tertius, donc c'est beaucoup d'épîtres de Paul n'ont pas été écrits lui-même, mais il l'a dicté à un de ses amis, un de ses secrétaires qui était là, peut-être un scribe aussi, comme on les appelle aussi parfois. Ça a été écrit en 57-58 après Jésus-Christ, lors de son troisième... voyage missionnaire, il était à Corinthe à ce moment-là, et cette lettre est destinée à l'église de Rome. Et c'est l'église finalement la plus proche de nous aujourd'hui, hein. Rome, on n'est finalement pas très loin de Rome ici déjà. C'est une lettre qui a été envoyée à l'église la plus éloignée de Jérusalem, et c'est une église qui a été fondée probablement par des chrétiens convertis, aussi bien par Paul aussi que d'autres apôtres itinérants, et elle était composée de juifs. Mais la plupart sont des non-juifs. Donc c'était une église, contrairement à d'autres églises plus proches de Jérusalem, qui avaient beaucoup de juifs, d'origine juive, qui étaient nus chrétiens. Ici, c'est plutôt l'inverse. La plupart étaient des non-juifs et il y avait quelques juifs parmi eux. On a parlé de Galates dimanche passé. Et puis, je crois, Léa disait, on pourrait aussi maintenant continuer dans Romains, qui est aussi un livre assez intéressant parce qu'il est assez complet, assez structuré. Il y a 16 chapitres. Et puis, ce livre a été destiné à des chrétiens, pas des jeunes dans la foi. On pense que c'était des chrétiens déjà relativement solides dans la foi. Et ce que Paul le rapporte ici, c'est plutôt des rappels pour fortifier leur foi. Et puis, elle comprend pas mal un résumé de la doctrine chrétienne, même s'il manque quelques sujets. Pas tous les sujets sont abordés, mais la plupart des sujets qui fondent aussi l'ensemble de notre foi y sont repris. Dans les premiers chapitres, c'est le salut par la foi, bien connu, aussi bien pour l'individu que pour l'humanité. Ensuite, on vient à la vie par la foi, ça devient un peu plus concret, avec des recommandations générales, recommandations pour soi-même, aussi pour les autres, pour l'État. C'est là qu'il est dit qu'il faut se soumettre à nos autorités, par exemple. Et puis des recommandations particulières qui ont été adressées aux Romains. Et puis ici, ensuite, il y a la conclusion au chapitre 16. Et puis ici, dans ce verset que j'ai lu là, « Accueillez-vous les uns les autres », on se trouve vraiment tout à la fin, dans le chapitre 15, qui est une recommandation particulière adressée donc, à ces chrétiens de Rome de suivre l'exemple du Christ. Jacques, tu disais au début, là, hein, finalement, est-ce qu'on s'habitue, on fait juste, on est comme la société, on a quelque chose de différent. Ben, je pense que c'est le Christ qui est la différence d'une église, c'est qu'elle... Suis l'exemple du Christ, comme il est bien dit dans ce passage. C'est notre modèle, c'est celui qui nous invite à sa suite et c'est ce que Paul aussi a bien compris en demandant aux chrétiens de Rome de s'accueillir les uns les autres comme Christ les a accueillis, comme Christ nous a accueillis chacune et chacun. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre juste un tout petit moment de silence. Voilà, on reste tous silencieux quelques instants. Et puis, je vous invite à vous juste vous poser votre question. Comment est-ce que j'ai été la première fois, ou alors à un moment marquant de ma vie, accueilli par Jésus? Comment est-ce que j'ai été accueilli? Ça peut être la première fois quand vous avez découvert le Christ, ou à des moments où vous avez besoin de sentir cet accueil de Jésus. Comment Jésus m'a accueilli personnellement? On prend quelques instants de silence. Si quelqu'un veut brièvement, en quelques mots, juste dire à haute voix, voilà, j'ai été accueilli comme ça, comme ça. Vous pouvez le faire maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie juste de... Je pense qu'on aurait tous des témoignages. Marie-Laurence ? Un accueil sans condamnation. Encore quelqu'un ? Je pense qu'on aurait tous des témoignages, des choses à dire. Voilà, Jésus nous a accueillis déjà chacun personnellement. Comme un ami, entendu, sans condamnation. On entendra aussi un témoignage, on parlera aussi de l'accueil de Jésus tout à l'heure. Voilà comment Jésus nous accueille. Ce verset de Romains 15, j'ai gardé quelques éléments, c'est toujours intéressant de voir dans la Bible comment les versets sont traduits. Certains sont traduits des fois de manière très similaire selon les traductions, et d'autres, il y a pas mal de différences. Et ici, vous allez voir qu'il y a relativement beaucoup de similitudes entre les... Là, j'ai pris six versions, Second 21, Nouvelle Français Courant, Bible du Semeur, Darby, Nouvelle Bible Second et Parole de Vie. Et la première chose, c'est qu'à une exception près, cette phrase, hein, « Accueillez-vous les uns les autres », elle est comme la conséquence ou la conclusion, on parle de « donc », « c'est pourquoi » aussi, ou bien Nouvelle Français Courant, le résumé ou en résumé de quelque chose qui précède. Donc on va aussi prendre tout à l'heure un temps sur les versets qui précèdent. J'aime bien toujours quand on arrive à une conclusion, mais finalement, comment on arrive à cette conclusion? C'est tout aussi important, j'ai envie de dire, ce qui précède que la conclusion. Et après, à l'expression « les uns les autres ». Dans toutes les versions, on parle « les uns les autres », « les autres les uns les autres », c'est quelque chose d'après. Voilà, on la trouve souvent cette expression, hein, surtout dans les lettres de Paul. « Comme Christ », c'est partout repris, référence à Christ, « comme Christ », « le Christ », « comme aussi le Christ », « comme le Christ lui-même ». Donc une claire référence à Jésus, une référence ou un modèle de la manière de nous accueillir les uns les autres. On parle d'accueillir et à une exception près, c'est dans Darby, on parle de recevoir. Et c'est toujours le même verbe qui est utilisé, que Christ qui reçoit, que nous recevoir les uns les autres, aussi dans les versions grecques, on trouve chaque fois le même verbe pour les deux. Et ici, recevoir comme Christ nous reçoit, ou recevez-vous les uns les autres. Et puis la fin, le but est de faire cet accueil pour la gloire de Dieu. Et là, c'est aussi identique dans toutes les versions. Quasiment, on dit « à la gloire de Dieu » dans la version Darby, mais tout pour la gloire de Dieu. Alors, on va maintenant lire ces six versets qui précèdent en Romains 15, les versets 1 à 6. Romains 15, versets 1 à 6. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc voilà quelques éléments ici qui nous montrent comment Paul est arrivé à cette conclusion. Premièrement, il dit qu'il y a les forts, il y a des forts et des faibles. Et j'ai envie de dire, on a des domaines où on est fort et des domaines où on se sent faible ou fébrile ou vulnérable. Ça, c'est, je dirais, la réalité humaine, la réalité de notre situation d'être humain. On n'a pas des forces partout, on n'est pas des forts partout, on a aussi des faiblesses. Et ce qui est intéressant, c'est que devant ce constat ici, la réponse que nous pouvons comprendre à travers ce texte, ce n'est pas « débrouillez-vous seul pour combler vos lacunes ou vos faiblesses ». Quand je vois aujourd'hui toutes les possibilités qu'on a pour se débrouiller tout seul, avec le smartphone, on peut quasiment tout faire, j'ai envie de dire. On peut faire les courses, on peut demander de l'aide, écouter des vidéos, on peut tout faire seul dans sa maison ou dans sa chambre ou en voiture. On peut faire tout seul, ou quasiment tout seul, j'ai l'impression. Mais c'est une illusion, je pense. Mais ici, il a dit que les forts ont un devoir. Ceux qui se sentent forts ont un devoir. D'une part, de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et d'autre part, de ne pas rechercher ce qui leur plaît. Dans la version Nouvelle Français Courant, une nouvelle version qui est sortie il y a 2-3 ans, ce devoir des forts envers les faibles est traduit de prendre à cœur les scrupules des personnes faibles. J'ai trouvé un peu une nouvelle traduction qui est assez intéressante, qui donne un peu plus de précision à ce que ça peut représenter, cette faiblesse. Première chose, prendre à cœur. Prendre à cœur, mettre toute notre attention, c'est important quand on dit quelque chose. Ça, je l'ai pris à cœur. Quand vous dites ça, en général, c'est quand quelqu'un me dit « je prends à cœur de m'occuper de cette personne ». En principe, vous pouvez lui faire confiance. Il prend ça à cœur, il le prend avec lui. Et puis, c'est quoi un scrupule? On connaît l'expression, les gens qui n'ont pas de scrupule. J'ai un peu la peine personnellement à le définir, le scrupule, je suis un peu voir dans le dictionnaire. C'est une incertitude d'une conscience exigeante sur la conduite à adopter, ce qui peut amener à hésiter. Par scrupule, on hésite à faire quelque chose. On peut donc comprendre aussi que les forts, et on dit des fois les forts n'ont pas de scrupules, des fois aussi, ça peut être les mêmes qui se sentent forts, qui n'ont des fois pas de scrupules non plus. Ici, donc, c'est ceux qui respectent les règles de l'Ancien Testament concernant la nourriture. C'est les passages précédents, ils pensaient qu'ils étaient forts parce qu'ils respectaient toutes les règles de l'Ancien Testament, ils se sentaient forts. Et je pense que c'est à ceux-là que s'adresse surtout cette parole des forts qui doivent prendre soin des plus faibles. Ils doivent prendre à cœur les faibles qui savent très précisément ce qu'ils doivent faire pour en avoir bonne conscience, une bonne conduite, mais qui sont hésitants quant à la manière de le faire. Et dans le contexte de notre foi, c'est être faible pourrait donc dire « je sais précisément ce que Dieu attend de moi, par exemple d'aimer mon prochain ». Mais j'hésite, pour diverses raisons, notamment la peur du jugement, notamment, une forme de légalisme, une forme de crainte. Comme peut-être les non-juifs face aux juifs, ils avaient peur ils savaient qu'ils étaient libérés de la loi, mais comment concrètement le faire? Donc un peu cette hésitation entre ce qu'on sait et puis la manière de l'exprimer. Comment on exprime, par exemple, l'amour pour son prochain? Est-ce qu'on ne se reconnaît pas tous, parfois, dans cette situation? On sait ce qu'il faut faire. Et on est hésitant dans notre manière de le faire pour diverses raisons. C'est peut-être ça aussi, d'être faible. Et le deuxième devoir, c'est de ne pas chercher ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à notre prochain. Je cite « pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi ». Comme Christ, ça c'est le verset 2, qui n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Et là aussi, dans une société assez individualiste où chacun regarde en premier ce qui lui plaît, ce qui lui convient, je vois ce passage qui nous ramène aussi à un équilibre entre ce que je fais pour moi, pour mon équilibre, pour mon plaisir, et ce que je fais qui plaît à l'autre pour qu'il grandisse dans la foi et sa relation avec Dieu. Dans la traduction Nouvelle Bible Second, il nous est dit que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, donc ça c'est à peu près la même chose dans les autres traductions, mais en vue de ce qui est bon et constructif. Je trouve intéressant, c'est que faire ce qui plaît à son prochain, c'est bon, donc c'est bon, mais c'est pas seulement bon pour la personne, c'est pas seulement bon pour lui, mais c'est aussi bon pour la communauté. Et constructif, donc on parle pas non plus pour le construire lui, mais de manière générale pour constructif, donc pas seulement pour notre foi personnelle, mais aussi pour la construction de l'Église, de notre paroisse ici à Versoix, c'est bon. Ensuite, les versets 4 et 5, je vois un peu comme une équation, mathématiques, ça plus ça égale. Alors, je l'ai mis persévérance plus réconfort égale espérance. Et cette équation, elle se met en place à travers les Écritures, la Bible pour nous, que nous lisons et qui nous instruisent dans ce sens, que nous ayons l'espérance, donc persévérer, qu'on ait le réconfort pour avoir l'espérance de la vie éternelle, du royaume de Dieu, de notre transformation intérieure, etc. Et cette espérance, il est clairement dit ici que seul Dieu, et il est parlé de le Dieu de la persévérance et du réconfort, le verset 5 peut nous donner. Oui, la persévérance, c'est notre part, et hein, ne pas lâcher, persévérer, continuer, c'est notre part. Mais n'oublions jamais que nous avons besoin de Dieu qui est au-dessus du temps, parce que sinon la persévérance, c'est de traverser le temps et que ça reste, mais Dieu est au-dessus de cette dimension de temps. Il est là, toujours avec nous, pour qu'on puisse continuer, persévérer, ne pas nous arrêter en restant connectés à lui par la prière. Et nous arrivons à ce dernier verset qui est magnifique, une magnifique prière de Paul, verset 5. « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vivre en plein accord, c'est toujours des fois un peu, c'est quoi vivre en plein accord? Donc c'est l'harmonie, hein, c'est un bel accord, mais si on n'avait que la note Do tout le temps, bon, on s'en lasserait un peu vite, hein. On resterait dans le Do, quoi. On dirait tout à coup, il n'y a pas d'autres notes encore plus belles qui pourraient amener un plus à ce Do. Et on a le Mi. Après, on a des accords des fois un peu plus dissonants. Alors, c'est des fois plus délicat. Certains aiment des fois un peu moins. Ça devient un peu plus sensible. Hein. Mais les accords sont faits de notes différentes. Et des notes différentes qui, ensemble, sonnent beau. C'est une belle harmonie. Et c'est ce que veut Jésus. Et la deuxième partie du verset est ce que nous avons fait ce matin, hein, durant le temps de louange. Nous avons tous ensemble, d'une seule voix, souvent à l'unisson, mais parfois on a aussi une deuxième voix, là, en harmonie aussi, on a rendu gloire à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vois ces temps de louange, c'est une chose qui fait partie de nos cultes, c'est une chose de notre vie de foi, de communauté, de louer le Seigneur ensemble. Mais ce n'est pas un but en soi. Je vais encore juste préciser, ce n'est pas un but de louer le Seigneur, mais la conséquence ou le reflet d'une vie communautaire harmonieuse qui donne toute la gloire à Dieu. S'accueillir. Donc venons-en maintenant à ce dernier verset, cette conclusion. Alors, en résumé, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le mot grec ici utilisé pour accueillir, c'est intéressant parce qu'on le trouve traduit de différentes manières. Là, je suis parti de la Bible Louis II avec les différentes possibilités qu'il est traduit. Il est traduit par prendre à part. Dans le verset, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaît, Seigneur, ça t'arrivera pas. » Donc, quand il prend Jésus à part pour lui dire quelque chose, on utilise le verbe accueillir. Prendre avec. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il y a aussi, c'est aussi traduit une fois par manger. On va le faire tout à l'heure. Hein. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. C'est quand ils sont sur le bateau, là, puis direction l'Italie. Et puis, ils ont besoin de reprendre un repas pour prendre des forces. Et c'est ce verbe-là qui est utilisé. Ou bien recueillir. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Vous connaissez l'histoire aussi dans Actes des Apôtres. Donc là, on prend aussi le même verbe. Recevoir, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi. Dans Philémon, verset 17. Et puis bien sûr, accueillir, qui est utilisé à plusieurs reprises, dont ici. Mais il est aussi utilisé dans un autre verset bien connu. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Ça, c'est dans Romains 14, verset 1. Ensuite, on a les uns les autres. Je comprends dans cette expression utilisée souvent dans les lettres Paul qu'on est tous égaux en valeur, en dignité. Il n'y a pas dans l'Église, hein, qu'il n'y a dans l'Église cette communauté si chère à Jésus, pas de différence entre les personnes. Et j'ai envie de dire, c'est si important. On a tellement tendance à mettre des différences entre les personnes. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas une seule personne, même si elle est dotée des dons ou des ministères les plus visibles, hein, qui soit supérieure à une autre aux yeux de Dieu. Et cette compréhension, je la base aussi sur un autre verset dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Là, on touche l'origine d'une personne. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Le droit, le statut, hein, les droits qu'on a, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni identité sexuelle. Il n'y a pas de différence aussi pour Dieu. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ensuite, on en vient au modèle, hein, comme Christ vous a accueilli. Est-ce qu'on a pris ce petit moment au début, comment Christ vous a accueilli, vous vous souvenez? Continuez si vous voulez aussi encore chez vous après. Comment Christ vous a accueilli? Et je me suis dit, Christ, hein, les 12 disciples, je me suis un peu intéressé à qui étaient ces 12 disciples et comment Jésus les a accueillis, ces 12 disciples, et qui ils étaient, puis comment il les a accueillis. Alors, je crois qu'on peut dire qu'il les a tous accueillis, hein, par le même amour, le même respect. Il a passé du temps avec eux pour manger, pour partager, pour les enseigner, pour leur donner cet exemple qui a été repris par Paul de nous accueillir les uns les autres. Il a d'abord accueilli Pierre, hein, bien connu, ce pêcheur, caractère bien trempé. Il a accueilli André, frère de Pierre, qui était aussi pêcheur. Premier disciple qui a été choisi par Jésus après avoir été disciple de Jean-Baptiste. Et lui, il a dit qu'il avait souvent fait, en tout cas les quelques références qu'on a, il a fait un peu l'intermédiaire ou le médiateur. C'est aussi lui qui a présenté Jésus à son frère Simon. Ensuite, il y a Jacques le Majeur, on parle dans nos traductions plutôt Jacques de Zébédée, frère de Jean, qui fait partie du cercle des trois disciples les plus intimes avec Pierre et Jean. C'est un peu les plus intimes autour de Jésus. Il y a Jean, bien sûr, auteur de l'Évangile, des trois épîtres de l'Apocalypse, qui est aussi pêcheur et qui avait une complicité spéciale avec Jésus, hein, puisqu'il y a la précision en 4 fois dans son Évangile. Je me suis dit, c'est assez bizarre quand même, il a écrit ça dans son Évangile, hein. Le disciple que Jésus aimait. On ne va pas développer ce sujet, mais il a précisé ça. C'est le seul qui a écrit ça dans l'évangile de Jean. Il y a Philippe, il est un peu moins célèbre que Jean. Quand il était appelé par Jésus à le suivre, il s'est tourné vers Nathanaël et l'a convaincu à croire en Jésus, en lui disant « viens et vois ». Donc c'est quelqu'un qui a pu, force de conviction aussi, peut-être un peu l'évangéliste, on dirait aujourd'hui, il a pu partager ça et faire aussi en sorte que Nathanaël aussi croit en lui. Et après, il y a Nathanaël, on parle aussi des fois de Barthélemy, une personne, on voit qu'il avait des préjugés. Hein, il dit par exemple, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais il s'est laissé convaincre par Philippe à suivre Jésus, qui a dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Donc ça semble être un homme assez honnête, intègre. Mais il avait aussi des préjugés. Thomas, alors on ne parle pas de Thomas, hein, c'est celui qu'on cite peut-être le plus dans le langage courant, être un peu incrédule ou bien ne pas croire comme Thomas, un homme incrédule. Matthieu, un publicain percepteur d'impôts. Donc je me suis mis pas très bien vu par ses amis juifs. Hein. Il travaillait pour les Romains. C'est aussi le dernier disciple qui a été appelé par Jésus. Ensuite il y a l'autre Jacques. Donc il y en a plusieurs, un des Jacques, d'où la précision de Jacques le mineur ou le fils d'Alphée. Il est cité 3 fois, une fois dans chaque évangile synoptique, sans précision. On ne sait pas comment il a été appelé, on ne sait pas grand-chose de lui. Donc un peu un anonyme, une histoire entre guillemets normale d'un disciple, pas de précision. Il y a aussi Jude, qui serait, donc on pense qu'il pourrait être un cousin de Jésus, que les pères, donc Jacques... Son père Jacques serait un frère de Joseph. Donc voilà un disciple ici qui avait un lien de parenté. Alors on peut discuter sous le lien de parenté, mais il y avait le père de Jésus, hein, le père terrestre de Jésus était Joseph, donc ça aurait pu être son cousin. Simon le Zélote, on le disait le Zélote parce qu'il appartenait à ce groupe un peu revendicateur en Israël. Il voulait se rebeller contre l'Empire romain. Il voulait renverser par la force, par la violence. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu les complotistes aujourd'hui, là, ils veulent renverser, etc. Il y en avait déjà à l'époque, hein, des gens qui disaient, il faut renverser, contre le pouvoir aussi. Le pouvoir n'est pas bon, etc. Et puis il y a finalement Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, hein, c'est l'archétype du traître qui a trahi Jésus, qui a été remplacé ensuite par Matthias, qui a été choisi par tirage au sort. Et là, on est dans les actes. Pour le remplacer une fois que Jésus était déjà monté au ciel, après l'ascension, il a été tiré au sort. Donc voilà ici des personnes avec leur personnalité que Jésus a choisi, qu'il a accueilli. Puis à notre tour, nous sommes invités à nous accueillir les uns les autres. Qu'on ait un caractère bien trempé comme Pierre. Qu'on soit quelqu'un de plus intermédiaire, médiateur, qui fait le lien. Qu'on soit quelqu'un, on a une sphère plus intime, on a aussi des relations avec des personnes plus intimes. Des personnes avec qui, comme Jean et Jésus, avaient une bonne complicité spéciale. On a aussi des personnes comme ça autour de nous. On a ces personnes comme Philippe qui veulent convaincre. Je vous ai déjà vu des gens qui veulent nous convaincre de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient. Ils ont une force de conviction importante. On a des Barthélemy ou Nathanaël, des personnes avec des préjugés. Tac, tac, on n'a pas un peu tous des préjugés des fois. Hein. Des préjugés sur qu'un mec est aussi en même temps un homme honnête, intègre. On a des hommes incrédules comme Thomas. On a des hommes comme Matthieu, pas très bien vu par ses amis juifs. Donc on peut dire peut-être des gens aujourd'hui dans la société pas très bien vus dans la société ou par un groupe de personnes. Et puis on a toutes ces histoires de personnes comme la plupart d'entre nous sommes. Pas une histoire extraordinaire, une histoire normale comme Jacques, fils d'Alphée. Ces personnes autour de nous qui sont des personnes entre guillemets normales. On a des personnes de notre famille, dans notre église aussi. Il y a des parents, c'est des fois encore une autre dynamique hein, de s'accueillir les uns les autres dans la famille. Puis il y a aussi notre famille de sang qui est présente. Ou bien on a ces rebelles comme Simon qui veulent aussi se rebeller contre une injustice, se rebeller contre toute forme de rébellion, je dirais, contre une forme d'injustice. Des gens sont plus sensibles à ça, les injustices, donc ont plus ce besoin de pouvoir aussi exprimer cette injustice et voir se rebeller. Et puis il y a ses amis Judas, l'archétype du traître. Là, je pense que c'est une ratio encore. Si on a des gens autour de nous qui nous ont trahis, ça, c'est encore une autre façon de s'accueillir les uns les autres. Plus délicate, besoin de pardon peut-être, besoin de faire un chemin ensemble pour pouvoir nous reconnecter. Et puis on est des fois choisi par hasard. Hein. On est là par hasard, peut-être comme Matthias. Peut-être des gens se disent, je suis un peu là par hasard. Bon, j'ai rencontré Dieu, c'est un peu le hasard qui fait les choses. Mais bon, qu'est-ce que le hasard hein. Mais qu'on a l'impression d'être un peu... Ils ont été tirés au sort d'une situation. Ça me fait penser, on était à... Non, c'était pas transfusion. Le forum chrétien roman qu'on avait fait à Lézin, c'était un forum œcuménique. Et puis on devait se présenter un peu comment Dieu nous appelait chacun. Et puis il y avait un prêtre catholique, puis il a dit, moi, Dieu m'a appelé. En fait, c'est ma hiérarchie qui m'a toujours appelé. Ils m'ont dit, maintenant tu vas être prêtre ici. Je suis allé là. Maintenant tu vas là. Donc, j'ai pas mis Dieu, mais ça faisait un peu nous qui avons notre foi un peu personnelle. Dieu m'a appelé personnellement. Jésus m'a appelé, c'était une forme, j'ai été appelé par les gens qui me mettaient en place à gauche, à droite. C'était sa façon aussi qu'il voyait que Jésus, donc on peut dire un peu tiré au sort. Hein. Je te place là, il y avait des raisons certainement, hein, mais c'était quand même un peu, pour lui, il était déplacé selon les besoins qu'il y avait dans l'Église. Et puis ça se termine ce passage pour la gloire de Dieu. Et là j'ai envie de dire, on relève la tête, là on gardait un peu tous autour de nous, s'aimer les uns les autres, on relève la tête, on prend de la hauteur. Pour dire aussi que cet accueil mutuel, comme Christ nous a accueillis, est pour ou à la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers nous. Et ce que nous rayonnons autour de nous par le fait qu'on est rassemblés, qu'on est une communauté. C'est Jésus qui est élevé ici, c'est son amour, son accueil que nous manifestons en nous accueillant les uns les autres. Et j'amène la précision que ça va au-delà de l'accueil voilà, je suis sympa avec toi, j'accueille, mais on est une communauté qui nous accueillons dans toutes nos différences. J'ai parfois l'impression que voilà, c'est une communauté qui humainement ne tient pas ensemble, elle n'a pas de logique. Si ce n'est, oui, on a des affinités plus ou moins avec mais qu'on puisse être ensemble. Toutes ces personnes comme les 12 disciples ont pu cheminer avec Jésus. Et c'est, je crois, le miracle aussi de Jésus, de notre communauté, de nous accueillir à la gloire de Dieu. Voilà, j'en arrive à la fin. L'accueil mutuel, c'est dans l'ADN de l'Église de Christ et nous voulons aussi que ce soit marque de fabrique aussi ici à Versoix. On est sur une très bonne voie, je suis là maintenant depuis une année et demie, je vois aussi l'accueil, la capacité d'accueil que nous avons. On a un groupe accueil qui s'est un petit peu arrêté durant le Covid, qui a été réactivé. Il n'y a pas toutes les églises qui ont un groupe d'accueil, hein. Donc c'est les gens aussi qui ont à cœur d'accueillir les personnes quand elles arrivent au culte, magnifique. Et puis des temps de partage, on aura le repas canadien, donc tous ces temps sont là pour nous pour nous accueillir les uns les autres et être cette famille, ce corps que nous sommes. Alors l'accueil des semblables ou des personnes avec lesquelles on a des affinités est déjà un défi, mais comment accueillir une personne qui est un peu à l'opposé de mes idées, qui a un comportement qui m'énerve, chaque fois que je la vois, j'ai envie de... Hein? Ça rigole, je ne sais pas si ça touche aussi un peu. Ouais. Mais lui, hein, ok. Ou qui est d'une autre culture que je ne... Ça, on le voit quand on va dans une autre culture, qui est différent au début à ce qui nous attire de l'autre culture, puis après à tout à coup ce qui nous énerve de l'autre culture, qui est différent de la sienne, tout à coup on voit tout ce qui est différent. Ou qui a un passé qui m'est totalement étranger. Je ne sais pas si vous arrivez, des fois vous parlez avec des gens, ils vous parlent de réalité, mais c'est complètement... Vous n'arrivez pas à comprendre, c'est une réalité qui vous touche ni de loin ni de près, vous n'êtes pas de famille qui a vécu ça, pas de gens. Donc... Ou une personne qui a une attirance pour une personne du même sexe. Voilà, aujourd'hui c'est aussi un thème. Et puis, qui est pour moi, je parle ici aussi au niveau du réseau, l'homosexualité, les thérapies de conversion actuellement, ça c'est, je ne sais pas si le thème vous dit quelque chose. J'ai eu l'occasion d'en parler à la radio et je crois que ça a été relativement bien pris. Donc c'est un thème de comment accueillir les personnes qui sont aussi, qui ont cette réalité. Et je crois qu'ici nous avons besoin de l'aide de Dieu et de son accueil, de son amour parfait pour pouvoir aussi progresser dans notre accueil les uns des autres. Alors, tu peux maintenant aussi éteindre la projection, Daniel. Et voilà, je voudrais maintenant donner la parole à Liliane et Pierre-Claude. Je ne commencerai pas, voilà. Et puis, ils vont nous apporter un témoignage d'une réalité qu'ils vivent et qu'ils veulent aussi, ce matin, nous partager. La réalité, elle touchant aussi une sphère assez intime de leur vie. Je vous invite simplement à les accueillir, à accueillir leur témoignage avec bienveillance et respect. Voilà, je vous donne la parole.
Bonjour à tous, qui j'ai pas encore salué. J'ai fait le calcul dernièrement. Nous sommes dans cette église depuis 26 ans. Depuis mes 28 ans, je suis dans cette église et c'est dans cette église que j'ai mûri, j'ai grandi. Quand je raconte, et je raconte souvent mon témoignage, je dis, j'ai eu vraiment ma deuxième conversion, c'était à l'âge de 30 ans. Donc j'étais ici, parmi vous, et ça me touche beaucoup en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris ici, j'ai beaucoup de chers amis ici. Je suis très, très reconnaissante pour ce lieu, très ouvert en fait. Vraiment, j'ai une grande reconnaissance. Et c'est vrai, ce matin, on vient avec un sujet tout sensible, Pierre-Claude et moi. Et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre écoute. Bien que je suis amoureuse de Pierre-Claude et vraiment on vit un temps... Est-ce que vous m'entendez dans le micro? Oui. Bien que je suis amoureuse de Pierre-Claude et on est vraiment heureux ensemble, je peux vraiment dire qu'on vit un temps de couple vraiment paisible et joyeux. Je réalise maintenant depuis quelques années, je suis dans le déni sur un sujet vraiment concret de ma vie. Je suis aussi attirée par certaines femmes. Alors dans le monde, on parle d'homosexualité. Je pourrais dire bisexuelle parce que voilà, je suis heureuse en couple. Moi, le mot que j'aime beaucoup pour me décrire aujourd'hui, c'est que je suis homosensible parce que pour moi, la Bible, c'est la base de ma foi, c'est la base de ma vie. C'est la parole de Dieu et dans cette parole de Dieu, comme je la lis aujourd'hui avec mes lunettes d'aujourd'hui, je ne vois pas la possibilité, même si je n'étais pas mariée à Pierre-Claude, de vivre une relation sexuelle avec une autre femme ou de le mariage. Voilà, je ne crois pas, pour moi, avec ma lecture des textes bibliques, que c'est une possibilité. Donc, j'aime beaucoup ce texte qui dit... en fait, ce mot me décrit bien, en fait, ce que je vis depuis vraiment beaucoup d'années maintenant, une homosensibilité. Dieu merci, hein, j'ai jamais franchi de la limite. Donc, je suis reconnaissante à Dieu aussi pour sa protection, aussi d'avoir pu non seulement être vraiment fidèle à mon mari, que j'aime de tout mon cœur, mais aussi à mon Dieu, en fait. Voilà. Je suis super bien entourée. J'ai une grande, grande reconnaissance pour beaucoup de belles personnes qui m'entourent aujourd'hui, qui sont là, qui sont comme des rocs. Je suis une reconnaissance exceptionnelle pour Pierre-Claude. J'aime dire, souvent on dit, voilà, les plus grands cadeaux qu'on a dans sa vie, c'est nos enfants. Le plus grand cadeau que j'ai dans ma vie, c'est Pierre-Claude. C'est vrai. Vous connaissez beaucoup de mon histoire et ensemble, on a traversé beaucoup, beaucoup de tempêtes. Et il est là. C'est vraiment un immense cadeau. Donc, je suis extrêmement reconnaissante pour vraiment je suis vraiment très, très bien entourée. Alors, pourquoi je viens ici témoigner aujourd'hui? Vous pouvez dire, ça vous regarde, dans votre intimité, pourquoi on fait toute une histoire? Alors, il y a trois raisons pour lesquelles j'en parle. La première, c'est que je tiens beaucoup à la vulnérabilité. Il me semble, et l'authenticité, il me semble, c'est vraiment une valeur qui est importante, en fait, dans l'évangile à laquelle Jésus nous invite, et de pouvoir juste être vulnérable. Alors peut-être, si vous vivez des choses difficiles, vous ne viendrez pas annoncer ça à toute l'Église comme moi, mais peut-être dans nos cellules, un à un, que nous puissions aussi être honnêtes les uns avec les autres, en fait. J'espère que mon authenticité va pouvoir aussi vous permettre, à vous, si vous luttez, de ne pas être seul, parce qu'il ne faut pas rester seul avec des grandes luttes qu'on a. Ça n'a jamais été l'idée de Jésus pour nous. Donc, une église, j'espère, une église accueillante, une église vulnérable, et où on peut être vrai. C'est un sujet aussi super délicat et c'est un sujet de société aujourd'hui et on entend de tout et du n'importe quoi. Hein. Et c'est important en tant qu'Église aussi de aussi en parler. Alors dans le passé, on a blessé beaucoup de gens qui sont partis. Hein. Ils sont plus là parce qu'on n'a pas su comment accueillir des personnes homosexuelles, homosensibles, voilà. Donc moi j'espère vraiment qu'on peut en tant qu'Église aussi commencer peut-être un dialogue et peut-être on va continuer cette discussion de dire comment accueillir, comment parler de ce sujet si délicat et si important quand même. Et troisièmement, prochainement je vais être beaucoup plus publique puisque les réseaux évangéliques suisses a demandé à ce que je commence un groupe de travail pour les questions du genre. Donc en fait ça se pourrait dans l'avenir que je vais être beaucoup plus publique. Je commence avec une collègue également un podcast que prochainement on va donner la parole à beaucoup de gens comme nous parce qu'il y en a beaucoup plus que vous croyez dans nos églises. Ils sont parmi nous en fait, ils ne sont pas tous à l'extérieur. Regardez-moi, est-ce que vous avez soupçonné que ça aurait pu être ma réalité? Il y a bien plus de gens que vous ne pensez qui sont comme moi. Et non seulement des personnes mariées ou pas mariées, mais également des parents de jeunes. Et il faut qu'on commence à parler, il faut qu'on donne, voilà. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles je parle ici aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour votre accueil et je suis vraiment prête à continuer à parler parce que c'est compliqué, hein, comment en parler? Alors moi j'ai dit aux gens qui savent pas comment me parler parce qu'ils sont gênés, demande-moi de temps en temps comment je vais, c'est une excellente façon, demande-moi comment je vais, je vous dirai, voilà. Merci pour votre attention. Ouais.
Voilà, c'est vrai que Liliane, on a plusieurs fois partagé déjà ça avec différentes personnes. Nos enfants aussi, Camille est là. Et c'est vrai que pour beaucoup, souvent, c'est la grande question. Et toi, comment tu vas? Parce que c'est vrai que je suis un peu... Liliane a donné son témoignage et je ressens beaucoup d'empathie, de sympathie pour plein de personnes. Et simplement, moi, j'aimerais me tenir là, à côté d'elle. C'est vrai que je peux témoigner que on a vraiment expérimenté, en fait, ce verset de la Bible qui parle de la corde triple, hein, qui ne rompt pas facilement. Et c'est vraiment ce qu'on a, je peux dire qu'on a expérimenté. C'est vrai qu'il y a eu des temps très compliqués, très difficiles, mais pas une seule fois, je peux dire que ça nous a séparés. Pas une seule fois, on s'est dit, on va devoir se séparer, etc. Et au contraire, depuis que ces choses-là sont sorties, je pense que ça a énormément développé notre amour l'un pour l'autre. Et surtout, ça nous a rapprochés de Dieu, en fait. hein, le train-train, etc. On avait eu des temps un peu compliqués aussi, il y a quelques années. Et finalement, après, on retombe dans une certaine forme de routine. Et voilà, tout à coup, un ouragan qui nous tombe dessus. Mais voilà, vraiment de sentir que Dieu est là, il est avec nous. Et pour, personnellement, pour moi, ce qui m'a surtout aussi aidé, c'est que Liliane est la transparence même, l'honnêteté personnifiée, j'ai envie de dire honnêtement. Et Liliane dit ce qu'elle pense, elle ne peut pas faire autrement. Des fois, peut-être un peu trop dans suivant où c'est, mais avec moi, en tout cas, il n'y a pas de secret, je veux dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, c'est une réalité et ça nous a aidé de le vivre ensemble. Et Daniel, tu as la photo que je voulais te mettre, que je voulais vous montrer. C'est vraiment une photo qui... Je vous ai parlé de deux versets qui m'ont touché. Ça, c'est une photo. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais je ne vous avais pas montré la photo. Je ne sais pas si on va arriver à la mettre. C'est cette fameuse photo de l'empreinte dans le sable. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Donc, celui qui il discute avec Dieu, puis il revoit le chemin de sa vie, puis il voit, il y a ces deux empreintes, et il voit Jésus avec lui. Puis tout à coup, il ne comprend pas. Il y a des événements dans la vie, puis il dit, mais Seigneur, là où justement il y avait des temps difficiles dans ma vie, tout à coup, on dit, j'étais seul. Puis qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui répond Jésus? Mon enfant, je t'aime, et je ne saurais t'abandonner. Au jour d'épreuves et de souffrances, quand tu ne vois qu'une seule trace de pas, c'est alors que je te portais. Donc c'est vraiment ça, et je veux dire, moi j'ai aussi un autre verset, disons, que j'ai envie de citer, parce qu'il m'a aussi beaucoup encouragé, c'est dans les Romains. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vraiment, voilà, on ne comprend pas toujours. Et c'est vrai, j'ai rarement je suis un peu long, excusez-moi, mais j'ai pas souvent des grandes révélations. Je suis assez. Mais c'est vrai qu'une fois, quand on était au début de toute cette crise, disons, j'ai eu comme un sentiment d'évidence. J'étais sur ma moto, comme souvent. Hein. Je cite souvent. Avant, je citais mon chien. Maintenant, je cite la moto. Où je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et j'avais l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, quand Liliane dit qu'elle va travailler un peu avec le réseau et tout. Je crois profondément aujourd'hui que Dieu a quelque chose pour Liliane et pour moi par la force des choses. Donc voilà, on ne comprend pas forcément, mais on s'attend à Dieu. Et moi, je vous remercie de votre écoute. Merci à Stéphane aussi et plusieurs parmi vous, qu'on a vraiment des amis. Et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de partager ça avec vous ce matin. Et on demande simplement votre compréhension et indulgence. Merci beaucoup.